Laudetur Jesus Christus.
Tirer 110 missiles directement sur Israël ne restera pas impuni. La mise en garde du porte-parole de l'armée israélienne ce mardi à l'égard de l'Iran. Sur le front libanais, Tzahal confirme avoir tué un commandant du Hezbollah. On fait le point juste après les titres. Opération policière massive en cours à Mayotte pour lutter contre l'immigration irrégulière venant principalement des Comores voisins. Nous serons avec notre correspondante sur place. Dans ce journal, nous irons en Grèce. Retour premièrement sur l'île de Lesbos, 8 ans après la venue du pape François. Aujourd'hui, la route méditerranéenne est toujours la plus dangereuse au monde. Et puis ensuite, direction l'Olympie, où la flamme olympique a été allumée 100 jours avant les JO de Paris cet été, durant lequel le président français espère raviver la tradition de trêve olympique en ces temps de conflit.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. Bientôt 72 heures après l'attaque sans précédent menée par l'Iran en Israël, tous les regards de la communauté internationale sont désormais tournés vers Tzahal, car toute riposte pourrait engendrer un embrasement du conflit dans la région. Pas de représailles prévues pour le moment, mais l'armée israélienne compte bien répondre en temps et en heure. C'est en tout cas ce qu'assure son porte-parole, Jean-Benoît Harel.
Oui Alexandra, l'Iran ne sortira pas indemne. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression, a déclaré le porte-parole de l'armée Daniel Hagari depuis une base dans le sud d'Israël. Tirer 110 missiles directement sur Israël ne restera pas impuni, a-t-il ajouté. Voulant éviter une riposte substantielle d'Israël, les Américains ont assuré qu'ils pourraient prendre des sanctions économiques contre l'Iran par la voix de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Soutiens indéfectibles d'Israël, ils ont aussi rappelé la nécessité de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Côté iranien, le président Ebrahim Raisi s'est entretenu avec son homologue russe, Vladimir Poutine, qui l'a mis en garde contre les conséquences catastrophiques de toute nouvelle escalade. Le chef d'État russe a appelé les deux pays à la, je cite, « retenue ». La date et la manière de la riposte israélienne n'est toutefois pas encore connue, mais inquiète les pays frontaliers. La Jordanie, située entre Iran et Israël, qui affiche son soutien à la cause palestinienne, s'est élevée contre un éventuel conflit qui pourrait toucher son propre territoire.
Merci Jean-Benoît Harel. Ces tensions régionales aux répercussions en temps mondial. Au Portugal, l'ambassadeur de Lisbonne près d'Israël a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Une rencontre pour condamner l'attaque en Israël, mais aussi pour exiger la libération d'un porte-conteneur portugais saisi ce week-end dans le Golfe par les forces iraniennes, quelques heures seulement avant l'attaque de drones sur Israël. Pas de répit à la frontière libano-israélienne également. Un commandant du Hezbollah, mouvement libanais pro-iranien, a été tué dans une frappe de drones israéliens dans le sud Liban ce mardi. Par ailleurs, Tzahal informe que 2 drones armés venant du Liban ont explosé dans le nord du territoire israélien, blessant 3 personnes. Autre chiffre à la une de l'actualité ce mardi, 37 000, c'est le nombre de civils et militaires ukrainiens portés disparus depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Décompté par Kiev, ce chiffre est sûrement sous-estimé selon le commissaire ukrainien aux droits humains, en raison notamment de l'occupation de 20% du territoire national par Moscou. Et par ailleurs en Ukraine, pour faire face à la pénurie de soldats volontaires, le président Volodymyr Zelensky a promulgué aujourd'hui une nouvelle loi sur la mobilisation militaire. La loi abaisse l'âge des hommes mobilisables de 27 à 25 ans. Elle fait également l'objet de controverses car elle ne prévoit pas de délai de démobilisation pour les soldats. Opération policière massive en cours à Mayotte, archipel de l'océan Indien au large de Madagascar. 1700 gendarmes, policiers et militaires français sont mobilisés pour lutter contre l'immigration illégale et l'habitat insalubre. Baptisée Mayotte Place Net, c'est la 2e opération policière d'envergure depuis celle lancée au printemps l'an dernier, nommée Wambushu. La correspondance régionale depuis les Comores de Natija Solihi.
L'inquiétude plane depuis hier à Mayotte, où les Comoriens et les ressortissants des pays d'Afrique en situation illégale vivent dans la peur. La menace est de taille avec le lancement de la 2e phase de l'opération Wambushu le 15 avril 2024. Une phase qui comporte, selon Mayotte la première, les mêmes objectifs que Wambushu 1, à savoir le refoulement des personnes vivant en situation irrégulière et la destruction des bangas illégaux aux fins de lutter contre l'insécurité, l'immigration clandestine et le décassage des habitations illégales et insalubres. Wambushu divise l'opinion des élus de Mayotte qui estiment que ce n'est pas la solution efficace au fléau de vagabondage et de délinquance qui prône l'île. En 2023, le gouvernement comorien s'est opposé à tout plan d'expulsion des Comoriens vivant à Mayotte, sauf pour ceux qui le voulaient. Cependant, pour cette fois-ci, ils ne se sont pas encore déclarés. Moroni, Natija Swalihi Adabi pour Radio Vatican.
Il y a tout juste 8 ans, le 16 avril 2016, le pape se rendait sur la petite île grecque de Lesbos, aux côtés du patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée, et de Hieronymos, archevêque d'Athènes et de toute la Grèce. Tous les trois visitaient le camp de Moria, où sont accueillis des réfugiés, ont prié pour les migrants morts durant leur traversée et lancé des couronnes de lauriers en mer. 8 ans après, la route méditerranéenne est toujours la plus dangereuse au monde, et une fois arrivés en Europe, les obstacles sont loin d'être tous levés, notamment juridique pour l'intégration. Le témoignage de Sylvain Franceschi, coordinateur du Welcome Center d'Athènes, hébergé par le service jésuite des réfugiés en Grèce.
En ce moment, on a une grosse communauté somalienne, des gars assez jeunes, à la recherche d'emploi, éventuellement pour continuer la route, puisque en ce moment, l'asile ne leur est pas accordé facilement. En revanche, on a aussi une forte population palestinienne qui semble obtenir plus facilement des documents de voyage, donc qui reste chez nous entre un mois ou deux. C'est une aide qu'on a du mal à apporter, puisque souvent les documents ne permettent pas un travail légal, donc c'est difficile d'orienter vers du travail illégal. En revanche, on peut leur apporter des compétences de base, comme notamment des capacités linguistiques, anglais, grec, pour se vendre plus facilement sur le marché touristique. Notamment, il y a besoin, la saison commence là en ce moment. Donc il y a du boulot, simplement, si on ne maîtrise aucune de ces deux langues, c'est très compliqué. Le cadre légal est tellement restrictif et les empêche tellement de s'intégrer en réalité, puisque quand le travail n'est pas possible, les délais d'attente sont énormes. On a des gens qui s'enregistrent sur les îles grecques, donc au large de la Turquie. Donc, par contre, les délais d'obtention d'un avis pour la demande d'asile sont extrêmement longs. Et on attend cette réponse-là dans des camps, alors ou bien sur les îles, mais de plus en plus dans des camps qui sont en dehors d'Athènes. Donc on les transfère sur le continent, mais à une heure ou deux de transport d'Athènes. Donc ça veut dire que dans ce temps, on attend une réponse. On ne peut pas travailler. C'est-à-dire que même le travail illégal dont je parlais, on a du mal à en chercher, puisqu'on est logé trop loin pour avoir vraiment une présence quotidienne à l'endroit où le travail se donne. Le soulagement de l'arrivée en Europe est court en fait.
Des propos recueillis par Delphine Allaire, c'était le témoignage de Sylvain Franceschi, coordinateur du Welcome Center d'Athènes. Athènes, où se déroule actuellement la 9e conférence Notre Océan, destinée à sa protection. Des experts et ministres de plus de 120 pays y sont réunis depuis hier. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé cet après-midi que des engagements dépassant les 10 milliards de dollars avaient été pris. On reste en Grèce, direction l'Olympie maintenant. Fidèle à la tradition, à 100 jours des Jeux Olympiques de Paris, la flamme olympique a été allumée à la mi-journée dans la ville grecque. Dans l'Antiquité, la coutume voulait que tous les conflits cessent pendant la trêve olympique. La flamme olympique inaugurée aujourd'hui se veut ainsi symbole de paix. Le compte-rendu de notre envoyé spécial sur place, Alexia Kefalas.
Le parcours de la flamme des Jeux Olympiques de Paris a commencé dans une émotion particulière, avec une cérémonie d'allumage contrariée par le temps et les nuages qui ont couvert les rayons du soleil. Mais cela n'a pas empêché la grande prêtresse de faire sa chorégraphie et d'implorer de toutes ses forces Apollon, le dieu du soleil, pour que ses rayons, certes crépusculaires, puissent allumer la vasque et ses miroirs paraboliques avec une flamme de rechange pour aider le miracle. La première torche a été transmise à Laure Manaudou, la nageuse olympique française, par Stéphanos Doskos, le champion grec d'aviron. Puis la flamme va parcourir la Grèce pendant 10 jours avant de voguer depuis le port du Pirée vers Marseille, où elle arrivera le 8 mai prochain. Elle portera un message d'excellence, de solidarité, d'espoir, mais aussi de paix en ces temps difficiles de guerre aux portes de l'Europe.
D'ailleurs, Emmanuel Macron a une nouvelle fois exhorté à une trêve olympique pendant les Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu du 26 juillet au 11 août. Les ministres de la Défense américains et chinois se sont entretenus aujourd'hui pour la première fois en un an et demi, annonce le Pentagone cet après-midi. Nouveau signe de la volonté des deux superpuissances de maintenir le dialogue malgré des tensions toujours très fortes. Cet échange survient au moment où les États-Unis cherchent à renforcer leur coopération en matière de défense dans la région Asie-Pacifique afin de lutter contre l'influence croissante de la Chine tout en maintenant des lignes de communication ouvertes avec Pékin. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité francophone du pape, du Vatican, de l'Église et du monde. Ça sera à partir de demain à 8h30 en compagnie d'Olivier Bonnel. Bonne soirée à toutes et à tous.